« Mes amis, nous dit Maître Duval une fois que nous fûmes tous réunis, j'ai un conseil à vous donner. Voulez-vous m'écouter ?» Inutile de rapporter quelle fut notre réponse. « Eh bien, poursuivit Maître François, nous devons avant tout transporter nos munitions sur une hauteur et nous y retrancher de notre mieux. Il est probable que cette île n'est pas habitée, mais n'importe, avant que 24 heures s'écoulent, les Indiens seront avertis de notre présence ici et viendront nous attaquer. » Nous n'avions rien à refuser à Duval, et quelle que fût notre fatigue et la difficulté que présenta un pareil travail, nous transportâmes au sommet d'un rocher élevé qui s'avançait en pointe vers la mer, non seulement nos provisions et nos armes, mais même encore nos deux embarcations. « Mais, Duval, dis-je à notre sauveur lorsqu'il nous manifesta cette dernière exigence, que diable voulez-vous donc que nous fassions de nos embarcations au haut de ce rocher ? Épargnez donc au moins la fatigue d'un pareil travail à nos hommes harassés et qui peuvent à peine se tenir debout. « Lieutenant, me répondit-il tranquillement, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est toujours le capitaine, vous voyez bien qu'il faut obéir. » Le fait est que dès notre première nuit, ces embarcations nous furent utiles, car elles nous servirent de chambre à coucher, étant retournées la quille en l'air. Il était près de minuit lorsqu'après avoir allumé un grand feu, nous pûmes enfin nous livrer aux douceurs d'un sommeil dont nous avions tant besoin. Quant à moi, quoique la perte de la petite Caroline, sur laquelle, si le lecteur se le rappelle, j'avais placé tous mes fonds, me ruina complètement, je ne fus pas le dernier à m'endormir. J'étais si jeune alors, et j'avais tant de foi dans l'avenir. Maître Sangfroid passa le reste de la nuit à veiller sur nous. Notre première pensée le lendemain matin, en nous éveillant, fut d'explorer l'île où nous nous trouvions. Armés chacun d'un fusil, d'un sabre et d'une paire de pistolets, nous partîmes, Guy, Davrio et moi, pour une excursion de découverte. Longeant autant que possible la côte afin de pouvoir retrouver notre chemin, nous franchîmes une distance d'environ une lieue, sans rencontrer aucun vestige de traces humaines. Nous allions retourner auprès de nos compagnons, quand, en doublant une masse de rochers qui nous barrait le chemin, nous aperçûmes, à environ 500 pas devant nous, une misérable hutte toute délabrée. Un mince filet de fumée s'échappait de son toit et prouvait qu'elle était habitée. « Eh bien, lieutenant ? » me demanda Brio en m'interrogeant du regard. « Eh bien, lui répondis-je, il n'y a pas à hésiter, avançons. » Nous armâmes aussitôt nos fusils et nous nous dirigeâmes vers la hutte. À peine nous restait-il une distance de 100 pas à franchir pour l'atteindre, lorsque nous vîmes 3 créatures humaines en sortir en poussant des cris et en prenant leur course vers la mer. Avrio, sans plus d'explication, fit feu, et une de ces 3 personnes tomba. Les 2 autres, au lieu de s'arrêter pour lui porter secours, redoublèrent de vitesse et nous les perdîmes bientôt de vue. Je réprimandai vivement Avrio sur sa précipitation, qui pouvait avoir pour nous les plus fâcheux résultats, mais ce matelot parut peu sensible à mes reproches. « Bon, lieutenant, croyez-vous bonnement que l'on puisse trouver sur cette île d'autres personnes que des pirates ? Et vous figurez-vous par hasard que ceux-ci, séduits par nos bonnes paroles et par nos manières, nous donneraient des renseignements et viendraient à notre secours ? Non, n'est-ce pas ? Alors le mieux est de tuer ceux que nous rencontrerons. Je suis bien loin de regretter mon coup de fusil. C'est une canaille de moins sur la terre, voilà. » Tout en parlant ainsi, nous arrivâmes jusqu'à l'endroit où gisait la victime d'Avrio. Que l'on juge de mon désespoir, c'était une femme. La balle d'Avrio lui avait pénétré l'épaule et traversé le cœur. Elle était morte roide sur le coup. « Ne vous désolez donc pas pour si peu de choses, lieutenant, » me dit le matelot. « On tue les femelles des serpents tout comme les serpents, n'est-ce pas ? Avec plus de plaisir même, car les femelles produisent des petits. Pourquoi donc je me désolerais d'avoir détruit cette indienne-là ? Et puis sachez bien une chose, c'est que les femmes des pirates de l'archipel, lorsque de malheureux étrangers leur tombent entre les mains, sont 10 fois plus cruelles et plus implacables encore envers eux que leurs maris, et Dieu sait pourtant que ces derniers ne pêchent pas par trop de sensibilité. Ah, mais non, je ne regrette pas mon coup de fusil. » Ces réflexions d'Avrio étaient assez justes, aussi n'insistais-je pas sur mes reproches. Nous nous remîmes en route. Nous venions de franchir un rocher assez élevé, lorsque Guy, étendant sa main dans la direction de la mer, « Voyez donc, lieutenant, » me dit-il. Je dirigeai mon regard dans la direction qu'il m'indiquait, et je vis comme un point noir qui semblait courir sur la mer. « Ah, diable ! » m'écriai-je après un court examen. « Ceci est une petite pirogue à balancier. Ce sont les naturels que nous avons surpris qui fuient. Ils vont sans aucun doute donner l'alarme et chercher des renforts. Avriot, ton coup de fusil pourra nous coûter cher. » Les rayons d'un soleil ardent qui tombait mortel sur nos têtes nous forcèrent de nous reposer. Nous nous mîmes à l'abri sous un arbre touffu et nous fîmes quelques heures de sieste. L'île que nous venions de parcourir était réellement la chose la plus délicieuse que l'on puisse imaginer. Qu'on se figure, pour s'en faire une idée, un gigantesque bouquet de fleurs et de verdure. Seulement, parmi les arbres d'une végétation incroyablement puissante et vigoureuse qui nous entourait, j'en reconnus une grande quantité, presque tous, comme étant très vénéneux. Un violent mal de tête que nous éprouvâmes, mes deux matelots et moi, en nous réveillant, me donna à supposer que nous nous étions endormis sous un arbre aux exhalaisons dangereuses. Je profite ici de l'occasion qui se présente pour détruire un préjugé, admis comme vérité incontestable en Europe, et dont nos faiseurs de romans ont beaucoup trop abusé. Je veux parler du Mancenillier. Combien de fois des lecteurs sensibles et crédules ne se sont-ils pas apitoyés sur le sort d'une jeune et innocente fille qui, attirée par la fraîcheur engageante que produit cet arbre homicide, s'endormait, insoucieuse et souriante, à l'abri de son ombrage, sans se douter certes qu'elle se couchait dans son tombeau. Eh bien, j'en suis fâché assurément pour ceux qui ont versé des larmes au récit d'un si affreux malheur, je suis forcé d'avouer que le Mancenillier, si indignement calomnié, n'a jamais tué personne. Peut-être bien, et cela même est certain, a-t-il parfois occasionné quelques migraines, mais sa fatale influence ne s'est jamais étendue plus loin. De retour à l'endroit où nous avions laissé nos compagnons, à qui nous racontâmes l'épisode du coup de fusil d'Avriot, que tous blâmèrent, nous trouvâmes Maître Sangfroid métamorphosé en ingénieur, occupé à faire creuser autour de notre campement un fossé profond. Le long de ce retranchement, le Bordelais faisait élever une espèce de parapet composé d'éclats de rochers superposés. Nous nous joignîmes aux travailleurs. Nos passagers portugais, revenus de leur prévention contre nous contèrent alors toutes les calomnies et toutes les perfidies de leur ex-domestique, ou, si l'on aime mieux, de notre ex-matelot Antonio. Ce récit nous révéla une scélératesse si profonde de la part de cet homme que nous hésitâmes un moment si nous ne le fusillerions pas. Par bonheur pour lui, il parlait fort bien l'indien, et cette circonstance le sauva momentanément. Nous le gardâmes pour nous en servir en qualité d'interprète si l'occasion s'en présentait. Nos fortifications achevées, nous nous occupâmes de la distribution des vivres. La ration fort exiguë de chaque homme fut réglée après un mûr examen des ressources dont nous pouvions disposer, de façon que nous eussions juste la quantité d'aliments qui nous était nécessaire. Antonio fut fixé, vu le peu d'utilité qu'il nous offrait, puisqu'il ne pouvait combattre, un quart de ration. Nous nous en remîmes à l'expérience du soin de nous apprendre si cela était suffisant pour l'empêcher de mourir de faim. Au reste, quoique le découragement ne nous eût pas encore atteint, nous ne nous dissimulions pas toute l'horreur de notre position. Il pouvait fort bien se faire que pendant un mois et même plus, pas un navire ne vint à passer en vue de notre île. Comment vivre, cependant, durant ce laps de temps avec nos provisions? Nous aurions peut-être pu par la suite nous en procurer d'autres à bord de notre navire non encore démoli, et néanmoins nous n'osions jeter un regard dans l'avenir. Il y avait déjà 3 jours que nous étions campés sur notre rocher, lorsque le matin de ce 3e jour, nous aperçûmes au soleil levant 2 grands proues qui se dirigeaient vers nous. Cette apparition, quoique nous y fussions préparés, ne nous causa pas moins une émotion profonde. « Mes amis, nous dit Duval, à quoi bon nous désespérer? C'est une folie de songer au lendemain. L'homme sage ne doit jamais penser qu'au présent. Or, nous avons assez de vivres pour aujourd'hui, des munitions à discrétion, et je vous réponds que nos fortifications suffisent à elles seules pour arrêter l'ennemi pendant plus de 24 heures. Est-ce que cela ne vous suffit pas? Allons, à plus tard, les plaintes et les doléances. » 3 heures plus tard, les 2 proues indiens accostaient l'île et y déposaient 100 de naturels. Quant à nous, nous n'étions plus, sans compter le passager portugais et le mousse, que 17 hommes valides. À peine les Indiens eurent-ils touché terre, qu'ils se dirigèrent en poussant de grands cris vers nous. Mais la vue de nos retranchements parut leur causer un profond dépit et les arrêta court. Ah ah! « Cela vous vexe, mes petits amours, de nous trouver ainsi arrimés, » dit tranquillement Maître Duval. « Parbleu, je vous réserve bien d'autres désagréments encore, vous verrez. » Le fait est que les Indiens et les Arabes, ainsi que je l'ai déjà dit à propos de l'imam de Mascate, professent un profond respect pour tout ce qui est fortification. Un simple épaulement en terre soutenant quelques pierres, un fossé que l'on pourrait franchir d'un seul bond, suffisent pour les arrêter au milieu de leur élan. Après une délibération qui dura fort peu, nous vîmes les pirates se retirer en désordre. Toutefois, avant leur départ, ils nous saluèrent d'une volée de flèches et de coups de fusil qui, placés sur une hauteur et retranchés comme nous l'étions, ne nous fit, on le concevra sans peine, aucun mal. « Envoyez-moi quelques quartiers de roche et une décharge d'esmagol à ces braillards-là, » dit Maître Duval, « ça les calmera un peu. » L'ordre du Bordelais, promptement exécuté, coûta la vie à 5 ou 6 pirates. Les autres s'enfuirent épouvantés. Je ne fatiguerai pas davantage le lecteur par le récit des assauts plus multipliés que dangereux que nous eûmes à subir pendant les 4 jours qui suivirent l'arrivée des Indiens. Il était évident pour nous qu'ils ne forceraient jamais nos retranchements. Seulement les vivres commençaient à nous manquer. Nous avions été obligés de réduire notre ration de moitié. Chaque jour aussi, de nouveaux proies abordaient au rivage et amenaient des renforts aux assiégeants. Je puis hardiment assurer, sans crainte d'exagération, que le nombre des pirates actuellement dans l'île s'élevait à au moins 1 millier. Nous commencions, quoique soutenus par les exhortations de Maître Duval, à perdre tout courage quand le 5e jour au matin, nous aperçûmes une voile européenne qui pointait à l'horizon. Qu'on juge de notre anxiété. Nous nous empressâmes de fixer au haut de nos rames, que nous plantâmes en terre, les voiles de nos embarcations en guise de signaux, puis nous tirâmes force coups de fusil. Vains efforts, le navire continua sa route. « Mais avis, nous dit Duval, que ce navire est un croiseur qui cingle débordé au milieu de l'archipel pour surveiller les pirates. Dans ce cas, il ne s'éloignera que fort peu de nous d'ici à quelque temps. Nous aurions peut-être le temps de le rejoindre. « Le rejoindre, Duval ? » m'écriai-je. « Y pensez-vous et comment cela ?»« Mais dans nos embarcations, lieutenant, » me répondit-il. « Croyez-vous donc que le capitaine nous les ait fait hisser jusqu'ici seulement pour s'en servir comme de cabine ? Du tout. Le capitaine, en sauvant nos embarcations, songeait qu'un de ces jours, et ce jour me semble arriver, elle nous servirait à aller requérir l'assistance de quelques croiseurs. N'est-ce pas, capitaine, que telle a toujours été votre idée ?»« Oui, Duval, » répondit M. Laffitte en rougissant. « Mais, Duval, » repris-je, « comment voulez-vous que nous nous embarquions malgré cette nombreuse flottille de pros qui stationnent devant la plage ?»« C'est justement parce que cela semble impossible que rien n'est plus facile. Comment, vous demanderai-je à mon tour, voulez-vous que ces gueux de pirates, qui ignorent au surplus que nous possédons 2 canots, puissent deviner cela ? Ils ne nous supposent pas assez fous pour abandonner nos retranchements, et par conséquent ils ne surveillent pas la plage. » Cette nuit, nous affalerons du haut de notre falaise notre embarcation à l'eau. Et au petit bonheur, est-ce décidé ? Mon grade de lieutenant me désignait justement pour conduire cette opération. Je ne crus pas devoir m'y opposer, craignant que l'on ne vît dans mon refus une considération personnelle et le projet de Maître Duval fût adopté à l'unanimité. Il ne s'agissait plus que de savoir quels seraient les hommes qui m'accompagneraient. Monsieur Laffitte proposa d'en appeler au sort. Mes guides et Avrio s'offrirent aussitôt d'eux-mêmes, et toutes les difficultés se trouvèrent ainsi levées. Comme je complimentais Avrio et guide, mes anciens compagnons, sur leur dévouement, « Oh mon Dieu, lieutenant, me dirent-ils, il ne faut pas nous en savoir gré. Nous nous attendions tellement à succomber de faim d'ici à quelques jours que risquer notre vie n'est rien pour nous. Seulement, nous vous avertissons d'une chose, c'est que si nous tombons entre les mains des pirates, nous nous ferons auparavant sauter la cervelle. » Nous préférons 1000 fois ce genre expéditif de mort aux tortures qu'ils nous feront subir. Et moi également, mes amis, je le préfère. Aussi, si nous nous trouvons dans cette position, je vous imiterai, sans hésiter. Soutenu par cette idée-là, lieutenant, ce qui nous reste à faire, ce n'est plus rien du tout. Ça va tout seul. La nuit venue, après avoir embrassé nos camarades, nous nous mîmes, Avrio, guide et moi, dans la yole et l'on nous descendit à la mer du haut de notre falaise. Munis chacun d'une rame pour nous garer des pointes du rocher sur lesquelles notre canot eût pu se déchirer, nous opérâmes notre périlleuse descente grâce aux précautions minutieusement prises à cet effet par Duval sans aucun accident. Parvenus à la mer, nous détachâmes les cordes qui retenaient notre canot, puis ramant avec la plus grande précaution et de façon à faire le moins de bruit possible, nous nous éloignâmes sans être poursuivis. Pendant plus de 3 heures, nous appuyâmes avec vigueur sur nos avirons, sans oser prononcer une seule parole. et puis notre position était si critique, si désespérée, elle éveillait en nous de telles idées que nous n'avions pas alors le courage de nous communiquer nos réflexions. Certes, nos camarades, sur leur falaise, ne se trouvaient pas dans une situation beaucoup meilleure que la nôtre. Cependant, elles n'étaient pas aussi désespérées. D'un moment à l'autre, un navire pouvait voir leurs signaux et venir à leur secours. Les pirates, fatigués de leur longue résistance, renonceraient peut-être à s'emparer d'eux, tandis que nous, lancés en pleine mer, sur une frêle embarcation, nous devenions forcément la proie du premier proc qui nous apercevrait. Et puis, que faire si nous ne rencontrions pas le navire que nous cherchions? Comment retourner à l'île et regagner le refuge inexpugnable qu'occupaient nos amis? Nous avions bien pu, en courant de grands dangers, descendre du sommet de la falaise à la mer. Mais comment, de la mer, remonter sur le sommet de la falaise, soit que nous abordions de nuit ou de jour? Nous étions donc plongés dans ces tristes réflexions lorsque Guy me frappa doucement sur le bras. « Voyez donc là-bas, à tribord, lieutenant, me dit-il, on dirait une lumière. »« C'est vrai, répondis-je avec émotion. Allons du courage, mes amis, dirigeons-nous de ce côté. »« Oui, en effet, c'est bien une lumière. Elle ressemble même à celle d'une lanterne ou d'un fanal. Du courage, car il me semble qu'elle vacille. » Le vent ayant fraîchi, nous hissâmes notre voile et nous avançâmes plus rapidement. J'étais en ce moment si abattu, si découragé, que je crois que la vue d'un proc rempli de pirates ne m'eût pas causé d'émotion. Aussi, l'aspect de cette lumière, qui, pareil à un phare protecteur, semblait venir nous indiquer notre route dans les ténèbres, ne m'apporta que peu d'espérance. Il me semblait tellement étrange que le sort, le hasard ou la providence, car j'étais dans une disposition d'esprit à croire à tout et à mettre tout en doute, il me semblait, dis-je, tellement étrange d'être secouru si à point nommé que je ne pouvais m'arrêter à l'idée que nous allions rencontrer un navire. Cependant, à mesure que nous avancions, la lumière apparaissait de plus en plus brillante. Malgré mes efforts pour éloigner de moi toute idée de réussite, dans la peur qu'une désillusion fût au-dessus de mes forces, il m'était impossible de refouler de mon cœur l'espoir qui commençait à y entrer. « Si nous tirions quelques coups de fusil ?» me demanda Avriot, tout aussi ému que moi. « Je le veux bien, essayons, » lui répondis-je. Quelques secondes plus tard, nos fusils faisaient retentir les airs de leur détonation. Mais, vain espoir, hélas, aucun bruit étranger n'y répondait. Une heure se passa ainsi pour nous, dans une cruelle incertitude. Au bout de ce temps, j'apercevais, à fleur d'eau, une autre lumière, moins vive et moins grande que la première, qui avançait rapidement vers nous. Je la désignai aussitôt à mes deux matelots. « C'est peut-être un proc, » me dit Avriot. « Après tout, que nous importe? N'avons-nous pas nos pistolets? Il nous restera toujours bien le temps de nous faire sauter la cervelle. » Le matelot achevait à peine de prononcer ces paroles, qu'un coup de fusil troubla le silence de la nuit, et nous entendîmes une balle passer en sifflant au-dessus de notre canot. « Ce sont des pirates, lieutenant, » me dit Guide. Je ne répondis pas et j'armai mes pistolets. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées quand une voix, dont le timbre me parut enchanteur, noué là en anglais, en nous ordonnant d'arrêter. Non, jamais de ma vie, je n'éprouvais une sensation aussi violente que celle que me causèrent ces quelques mots prononcés dans la langue de ceux qui naguère étaient nos ennemis et qui cette fois devenaient nos sauveurs. En effet, le doute ne nous était plus possible, nous venions de rencontrer, conduite par la Providence, l'embarcation du navire que nous cherchions. Je dois me rendre cette justice, qu'en ce moment de joie délirante, je ne fus pas ingrat envers le secours si providentiel qui nous arrivait. Ma première pensée fut pour Dieu, que je remerciais du plus profond de mon cœur. À présent, que l'on juge de mon étonnement lorsque le midshipman qui montait le cutter anglais qui nous avait accosté, m'apprit qu'il appartenait au Victory. Le capitaine du Victory, si le lecteur n'a pas oublié ce petit événement, était ce même Colliers avec qui M. Lafitte s'était pris de querelle, en dînant chez le gouverneur général des Seychelles, M. de Quincy, à propos de la capture illégale du brick français La Flèche. Le capitaine Colliers me reconnut, quoique je fusse bien changé, dès que je mis le pied sur le pont de sa corvette. « Ma foi, monsieur, me dit-il en souriant lorsque je le mis au courant de la position dans laquelle se trouvait l'équipage de la petite Caroline. « Je n'avais pas tort, vous le voyez, de répondre à votre capitaine, qui, se fiant à ses caronades et à son équipage, repoussait orgueilleusement nos offres de service. que l'on ne sait jamais ce que réservent les hasards de la mer. Toutefois, je ne me doutais pas alors que mon espèce de prophétie se réaliserait si tôt. N'importe. L'humanité ne me ferait-elle pas un devoir sacré de secourir vos compagnons, que je ne les abandonnerai pas, car je dois faire honneur à ma parole. » Le capitaine Colliers ordonna que l'on nous dressât, à Guy d'Avrio et moi, un copieux repas, auquel nous fîmes tous les trois le meilleur accueil. Puis il s'empressa de faire servir pour allier la petite Caroline. La brise de terre, comme si elle se fût associée à notre impatience, nous poussait rapidement à notre destination. Jamais je ne m'étais trouvé si heureux. Grâce à mes indications précises, la corvette gouverna de telle façon que lorsque 2 heures plus tard le soleil se leva, nous aperçûmes non seulement l'île, mais bien encore la pointe de la falaise sur laquelle nos amis étaient réfugiés. Vers les 9 heures arriva la brise de large qui nous força de louvoyer. Le capitaine anglais profita de ce retard pour faire déguiser sa corvette en paria. Bientôt une bande de prélats noirs exauce à l'œil ses bastingages déjà fort élevés d'eux-mêmes. Des turbans entourent la tête des matelots anglais qui, pour mieux compléter encore leur travestissement, relèvent leurs pantalons au-dessus du genou. À présent, qu'une manœuvre adroite et savante accompagne cette métamorphose, il y a 100 à parier contre 1 que les pirates tomberont dans le piège qu'on leur tend et que nos pauvres camarades Pornic, Yvon et Magloire seront vengés. Le capitaine Colliers, me faisant appeler, m'interroge alors sur la qualité du fond en dehors du récif qui longe la plage de la pointe de l'île. Je lui réponds que je l'ai exploré pendant le sauvetage et que je n'y aperçus aucun danger. C'est bien, mon plan est arrêté, et si, comme je l'espère, il réussit, je donnerai aux pirates une leçon qu'ils n'oublieront pas d'ici à longtemps. D'après les ordres du capitaine Colliers, une ancre à jet, jetée dans les conditions voulues sur l'arrière du Victory, ralentit sa marche. Il file lentement le long de la côte. Les pirates, trompés par l'apparence du navire que vient confirmer encore sa nouvelle allure, ne doutent plus que ce soit un Indien, et se précipitent en masse sur la plage pour le voir tout à leur aise. Alors, le Victory, démasquant tout à coup ses caronades chargées à mitraille jusqu'à la gueule, fait feu. Des cris déchirants se font entendre, et un cordon noir, formé par les corps des Indiens atteints, couvre une partie de la grève et montre que le commandant du Victory a réussi. 5 minutes après cette bordée, 3 embarcations montées par 60 hommes abordent l'île et délivrent nos malheureux compagnons. Je ne parlerai pas des transports de joie que nous éprouvâmes en nous voyant tous réunis et hors de danger. Le lecteur devinera aisément ce qu'ils durent être. Un seul homme, Maître Duval, sur qui l'adversité n'avait pu mordre, conserva son stoïque sang-froid devant le bonheur. Une fois que nous fûmes tous embarqués à bord de la corvette anglaise, le commandant fit comparaître le Portugais Antonio devant lui. Le misérable était tellement abattu par la crainte et par les privations que l'on fut obligé, avant de l'interroger, de lui administrer un cordial. Il commença d'abord par nier avec énergie non seulement sa participation au complot, mais encore le complot lui-même. Il n'avait jamais vu, avant de s'embarquer avec eux sur la petite Caroline, les complices qu'on lui donnait. En un mot, il était victime, sinon de la haine que nous lui portions, au moins d'un triste quiproquo. « Antonio, lui répondit le capitaine Colliers lorsqu'il eut cessé de parler, si je t'interroge aujourd'hui, ce n'est pas pour savoir si oui ou non tu es coupable, car depuis ce matin ma conviction est arrêtée à cet égard. C'est seulement afin de pouvoir consigner sur mon rapport de quelle façon tu t'es rendu coupable. Depuis longtemps déjà tu es condamné dans mon esprit, et quelles que soient tes réponses, elles ne t'empêcheront pas d'être pendu d'ici à 1 heure. » « Alors, capitaine, dit Antonio, à quoi bon? Puisque ma mort est chose résolue dans votre esprit, irai-je, pour vous être agréable, me fatiguer inutilement? Je ne tiens nullement à vous être utile ou à vous servir de passe-temps. Je ne répondrai plus à une seule de vos questions. À ton aise, mon garçon. Toutefois, je dois te prévenir d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs façons de pendre un gredin comme toi. Quoi? Cela t'étonne? C'est pourtant fort simple, ce que je dis là. « D'abord, on peut te pendre par les pieds. »«
Par les pieds ?»
répéta le Portugais en devenant livide. « Pourquoi pas, si c'est là ma fantaisie. Mais ne crains rien. » Je ne suis pas un innovateur en fait d'exécution. Je me contente d'employer les vieilles méthodes. Seulement, tu ignores peut-être qu'il y a justement dans cette vieille méthode plusieurs façons de cravater un pirate comme toi. D'abord, la corde sèche, puis la corde graissée.
« La corde sèche et la corde graissée, capitaine ?» répéta le portugais en tremblant.
« Oui, vaurien maudit, la corde sèche. Je ne conçois pas que tu ignores ce détail. C'est une corde neuve, raboteuse, qui ne glisse pas. » Le patient gambade et se tord pendant fort long espace de temps, sans pouvoir parvenir à rendre son âme au diable qui l'attend. « Tu vois cela d'ici, n'est-ce pas ?»«
Mais, capitaine !» s'écria le misérable, dont les dents claquaient d'effroi.
« Ne m'interromps pas. La corde graissée, c'est autre chose. » Fine, serrée et enduite de suif, elle glisse admirablement, et vous étrangle son sujet avant qu'il ait seulement le temps de s'apercevoir qu'un point d'appui manque à ses pieds. Or, je t'avouerai, Antonio, que je suis encore indécis sur le choix de la corde qui servira à ton exécution. Capitaine, au nom de votre mère, de votre salut éternel, de votre repos futur, épargnez-moi cette longue et cruelle agonie.
Tu m'attendris. Allons, raconte-moi d'abord ton histoire, je verrai après. »
Le portugais, vaincu par la crainte, entra aussitôt dans la voie des aveux. Il nous apprit que déjà l'année précédente il avait navigué en qualité de pirate avec Malari, Cortichat, Salario et Kidou, qu'ils étaient venus à l'île de France avec l'intention de s'embarquer tous ensemble sur le même navire et de s'emparer ensuite de ce navire, qu'enfin, grâce à Kidou, qui les avait abouchés avec eux, ils possédaient des intelligences avec les pirates indiens qui nous avaient attaqués. Procès-verbal fut rédigé de cette déclaration, puis, cette formalité remplie, on servit au condamné un copieux repas qu'il dévora malgré sa triste position avec avidité. Je demanderai à présent la permission de ne pas décrire l'exécution d'Antonio. Elle présenta, compliquée de la gaieté de l'équipage anglais, un affreux tableau. Le capitaine Lafitte pressait le commandant Colliers de prendre le large, mais ce dernier, désirant, avant de s'éloigner de la côte, compléter la leçon donnée aux pirates, n'y voulut pas consentir. « Il a tort de s'obstiner, » dit maître Duval en apprenant la résolution de l'officier anglais. « Quand on trouve un proie en mer, qu'on le coule et qu'on massacre son équipage, rien de mieux, c'est même un devoir. Mais que l'on aille relancer ces reptiles presque dans leur repère, voilà qui n'est pas prudent. Enfin, nous verrons. » Le lendemain matin, nous trouvant à quelques lieues du théâtre de notre naufrage, la corvette laissa tomber son ancre et les deux embarcations de la Caroline et un canot du Victory, armés tous les trois de soldats de marine et munis des objets nécessaires pour opérer une descente, furent envoyés vers une crique éloignée où l'on apercevait plusieurs proies en partie cachées sous des arbres. Le lieutenant Crawford commandait cette expédition. L'équipage, monté sur les bastingages, la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparût entre les rochers qui hérissaient les bords de la côte. À chaque instant, nous nous figurions entendre des coups de feu, mais bientôt nous revenions de notre erreur. Le silence régnait toujours autour de nous. Enfin, la nuit arriva sans que nous eussions aperçu de nouveau les embarcations. Nous commençâmes à ressentir une vive inquiétude. Personne ne dormit cette nuit-là, et le lendemain matin, avant le lever du soleil, l'équipage entier du Victory était sur le pont. Les proies des pirates n'avaient pas bougé de leurs abris. De l'expédition, nulle trace. « Eh bien, lieutenant, me dit maître Duval, avais-je deviné? Pourvu que le capitaine Colliers ne s'obstine pas. Mais bah, c'est têtu comme le diable, les Anglais, et ça ne veut jamais avoir tort. Vous verrez que pour acheter sa première boulette, il va faire une nouvelle bêtise. » En effet, une demi-heure plus tard, nous apprîmes que le capitaine Colliers avait tenu un conseil et qu'une nouvelle expédition était résolue. « J'en étais sûr, » me dit Duval. « Enfin, comme le motif qui le pousse cette fois, l'Anglais, est honnête, je m'en vais lui demander s'il veut nous permettre de nous joindre à cette expédition. Je connais mes mères de l'Inde et je pourrais peut-être leur donner par-ci par-là quelques bons conseils. » Maître Duval, joignant l'action aux paroles, s'en fut immédiatement trouver le capitaine Colliers et lui exposa sa supplique. « Je suis fâché de vous refuser, mon ami, » lui répondit ce dernier, « mais je n'ai pas le droit d'employer des étrangers pour le service de Sa Majesté britannique. »« Tant pis pour Sa Majesté britannique, » murmura Duval sans insister. Il restait à bord de la Victory 4 embarcations, la chaloupe et 3 canots. Comme on ne pouvait exposer la chaloupe, on arma 2 canots. Le capitaine recommanda à l'officier les plus minutieuses précautions et lui donna les instructions les plus détaillées et les plus précises. L'expédition partit accompagné, ainsi que l'avait été celle de la veille, de nos vœux et de nos regards, et ne tarda pas à disparaître derrière les rochers. La journée se passa en crainte et en conjecture, sans amener aucun résultat. La nuit vint à son tour à rien. C'était à nous faire croire à une puissance mystérieuse. L'anxiété la plus vive régnait à bord de la Victory. Le lendemain, il fut résolu que l'on expédierait le dernier canot à la découverte, mais avec l'ordre de ne pas l'aborder. Cependant, malgré cette défense, qui diminuait de beaucoup le danger, l'imagination de l'équipage anglais était frappée à un tel point que ce fut parmi les matelots à qui ne s'embarquerait pas. Le canot avait disparu depuis plus d'une heure quand les échos de la plage nous apportèrent le bruit d'une vive fusillade. Enfin, vainqueur ou vaincu, le mystère fatal qui pesait sur le sort des expéditions antérieures allait donc cesser. Vain espoir. Le feu de la mousqueterie s'éteignit peu à peu et fut bientôt remplacé par un lugubre silence. Le canot ne revint pas. Les proues ennemies restaient toujours immobiles dans leurs criques et sous leurs abris. Je ne saurais rendre le désespoir qu'éprouvait le capitaine Colliers en songeant que sur les 180 hommes dont se composait son équipage, il en avait perdu 60 sans profit pour le service du roi, c'est-à-dire un peu plus que ne lui coûtait un combat acharné contre un navire de force égale au sien. À ses pertes, il fallait joindre encore celles du lieutenant Crawford, de 4 midshipmen et de 2 master's mates. Avant de s'éloigner de ces funestes parages, le capitaine Colliers déclara qu'il attendrait encore 3 jours, le terme légal, pour qu'il pût considérer ses hommes comme perdus pour son souverain. Ce temps écoulé, hélas, en vain, le capitaine ordonna l'appareillage. Le vent soufflait alors de telle façon que la corvette, prenant le large, tribord amure, devait facilement doubler la pointe de l'île la plus rapprochée de nous. On vire donc au cabestan, et plusieurs gabiers montent dans la mâture pour déferler les voiles, lorsque tout à coup une grêle de balles, partant de derrière les rochers très peu élevés qui nous flanquaient d'un côté, tue et blesse plusieurs hommes. 2 de ces derniers tombent à la mer. On veut leur jeter des cordes, impossible. Tous ceux qui se montrent au-dessus des bastingages deviennent des points de mire pour les pirates embusqués et sont grièvement atteints. Le capitaine, subissant à son insu sans doute la terreur morale inexplicable qui s'est emparée de son équipage, renonce à envoyer déferler les voiles. La Victory présente le tableau d'une morne stupeur. Que faire? Telle est la question que chacun s'adresse et à laquelle chacun répond « Rien, attendre ». En effet, pour sortir de notre bizarre position, il faut attendre que le vent nous pousse directement du mouillage au large. C'est le seul moyen qui nous reste pour abandonner la baie à sec de voile, car ni la brise de terre ni celle du large ne nous présentent cette possibilité sans l'emploi des voiles. Et vous empêcheriez donc ce danger d'exister? Dom, ça ne serait pas difficile. Parbleu! M'écriai-je frappé d'une inspiration soudaine. C'est ce que nous allons voir. Sans faire part de mon intention à mettre sang-froid, je m'en fus immédiatement trouver le capitaine Colliers. Puis après lui avoir expliqué, en peu de mots, les services que le Bordelais nous avait rendus, je lui fis part de la conversation que je venais d'avoir avec lui. « Je vous remercie, monsieur, de votre bonne intention. Mais est-il bien convenable qu'un capitaine de haut bord prenne conseil d'un maître d'équipage? Après tout, ajouta-t-il en souriant tristement et après un moment de silence, le commandant Colliers est tellement humilié, si à plaindre, que je conçois que votre Duval, comme vous l'appelez, veuille bien lui venir en aide. « Ah, capitaine, ne parlez pas ainsi, je vous en conjure !» m'écriai-je avec un air de profond respect. « Je sais trop, étant marin moi-même, les égards que l'on doit à la hiérarchie. Pour oser songer un seul instant à m'en écarter, je me suis mal expliqué sans doute, je voulais vous dire... « J'ai eu tort, en effet, de me fâcher, monsieur, » dit l'anglais en interrompant. La Providence sert parfois de singuliers intermédiaires, et puis, dans ma position, je ne dois négliger aucun avis. « Faites venir votre homme, je vous prie. » Je m'empressai d'aller chercher Maître Sang-Froid, et je lui rapportai la conversation, en la mitigeant un peu, que je venais d'avoir avec le capitaine. « Je ne sais trop si je dois me rendre à cette invitation, » me répondit-il. « Le commandant ne m'a-t-il pas déjà déclaré une fois, quand je lui demandais de nous permettre de faire partie de la seconde expédition envoyée contre les pirates, qu'il n'avait pas le droit d'employer des étrangers pour le service de Sa Majesté britannique ?» « Allons, Duval, pas de rancune, suivez-moi. Après tout, je suis à vos ordres, mon lieutenant. » Le commandant Colliers, afin sans doute que son entrevue avec notre maître d'équipage n'eût pas de témoin, avait abandonné le pont et s'était retiré dans sa cabine.
« Ah, c'est vous !» dit-il en voyant entrer Duval. « Je vous reconnais, mon ami.
Voyons, parlez sans crainte. Il paraît que vous êtes un homme d'idées et de ressources.
Comment, si vous étiez à ma place, vous y prendriez-vous donc pour appareiller ? Votre lieutenant m'a appris que vous lui aviez trouvé le moyen. »
Ce moyen est si simple que vous allez vous en moquer, capitaine. Que voulez-vous? Je manque d'instruction, moi, à preuve que je ne suis pas officier.
N'importe. Vous avez, dit-on, du bon sens. Ainsi donc, expliquez-vous.
Après tout, si vous me blaguez, je n'en mourrai pas.
Continua tranquillement Duval. Voilà ma malice en deux mots. Je suis capitaine, c'est entendu, n'est-ce pas?
Bon.
Or, je monte sur le pont. Comme les forbans ne peuvent tirer sur nous que du côté des rochers, je fais hisser mes gabiers dans les unes et sur les basses vergues par l'autre bord et à l'abri des bas-mâts pour les garer des balles et les tenir prêts. Et j'ordonne de charger toutes les caronades jusqu'à la gueule. J'attends qu'il fasse calme et je fais faire un feu continu et d'enfer.
Contre qui ? Interrompit en souriant l'anglais.
Contre les rochers ?
Contre rien du tout.
Si ça peut même vous être agréable ou économique, il n'est pas nécessaire que vous mettiez des boulets dans les caronades.
Or donc, je dis, je fais faire un feu à mort, de façon à envelopper la corvette dans un nuage de fumée et la rendre invisible aux pirates. Alors, dame, les matelots que j'ai tenus cachés larguent les voiles sans courir le moindre danger et je fiche mon camp.
La ruse inventée par Duval était tellement simple, comme il nous l'avait en effet annoncé lui-même, que je ne pus comprendre comment cette idée ne s'était pas présentée plus tôt à l'esprit de tout le monde. Au reste, elle me parut infaillible.
« Mon ami, » lui répondit froidement le capitaine Colliers après un moment de silence, et en accompagnant ses paroles d'un sourire doucement railleur.
« Je suis flatté de me rencontrer avec vous, car cette idée que vous venez de me communiquer m'était déjà venue. Seulement, ne pouvant me décider à abandonner à tout jamais les équipages de tous nos canots, j'ai profité de l'impossibilité, on le se croyait, de mettre à la voile pour rester encore pendant 3 jours à les attendre. Il est par conséquent inutile que vous rapportiez à personne notre conversation. »
« À présent, mon ami, »
continua le commandant en retirant de son gousset une montre à répétition, « je dois réparer un oubli. Je m'étais proposé de vous offrir un gage de mon estime pour la belle conduite que vous avez tenue à bord de la petite Caroline en combattant les pirates, nos ennemis. Acceptez, je vous prie, cette montre en souvenir de mon amitié. »
Maître Duval prit la montre en rougissant de joie, salua gravement le capitaine et s'éloigna sans ajouter un mot. Ce ne fut qu'une fois sur le pont que se retournant vers moi.
« Voilà 20 ans que je désirais avoir une montre à répétition en or, » me dit-il.
« Merci, lieutenant.
Ce capitaine est un bon diable. »
« Mais, » ajouta maître sans froid, en regardant autour de lui pour voir si on ne nous observait pas et en se penchant contre mon oreille,
« c'est un craqueur fini.
Il n'avait pas eu mon idée du tout. »
Une heure plus tard, grâce au conseil de Duval, les caronades du Victory et différents amas de poudre jetaient des tourbillons de flammes et de fumée, les gabiers larguaient les voiles et nous appareillions sans être inquiétés. Quelques jours après, la corvette anglaise débarquait les 2 lacs de roupies destinés au gouverneur et descendait ensuite nos passagers portugais à Colombo de Ceylan et nous à Trincmalet, seul port de l'île où elle put recomposer son équipage. Ce fut en cet endroit que nous nous séparâmes. Quant à moi, en ma qualité de naufragé, qui me donnait le droit à un passage gratis, je m'embarquais sur un 3-mâts bordelais, le Caton, capitaine d'Acosta, expédié pour Madras et Calcutta. J'aurais bien voulu trouver un emploi un peu lucratif, car j'étais dans un dénuement complet à bord de ce navire, mais le capitaine, abusant de ma misère, ne m'offrit qu'une place de matelot. Que faire ? J'acceptais. Après quelques jours de mer, le Caton, malgré les conseils du pilote, qui suppliait d'Acosta d'attendre 2 jours, c'est-à-dire la fin du renouvellement de la mousson, venait mouiller dans la rade de Madras. Je ne connais rien qui soit plus splendide que l'aspect qu'offre la rade de Madras. La somptuosité des édifices, rehaussés par les effets d'optique, les hauts versandas, les toits en terrasse, les colonnades blanches et élancées se détachant sur un ciel du bleu le plus pur, tout cela couronné par la masse imposante du fort, le flot de la mer, toujours écumante, qui mugit en bondissant sur une étendue de côte à perte de vue, la diversité des embarcations qui sillonnent la surface des eaux,
Les groupes de figures humaines, noires et affreuses, qu'on voit rassemblées çà et là sur les roches de la grève, tout concourt à frapper vivement l'imagination du voyageur avide de nouveautés. La ville, vue de la mer, semble s'étendre beaucoup au-delà de ses murailles et surprend les regards par une singulière apparence de grandeur. Deux jours après que le caton eut jeté l'ancre, je fus à terre avec le capitaine. Nous fîmes ce trajet sur un bateau Massoula qui nous conduisit droit au rivage. Les bateaux Massoula sont d'une construction singulière. Ils ont la forme d'une barque grossière, leur fond est plat, ils n'ont pas de charpente, et les planches qui les composent sont simplement ajustées et doublées de l'écorce extérieure du cocotier, qui sert aussi à calfeutrer les jointures. Ils portent deux rangées de grands rames de forme oblongue. Le tout est tellement flexible que les planches des bords cèdent facilement au battement des vagues, qui perd ainsi de sa force en trouvant moins de résistance. Aussi ces bateaux bravent la mer, quelque violente et redoutable qu'elle soit, tandis qu'une chaloupe européenne n'a jamais pu s'y exposer sans être mise aussitôt en pièces. Ce qu'il y a de réellement étonnant, c'est la dextérité avec laquelle les rameurs évitent le choc des vagues et dirigent ces machines, en apparence si informes, sur la mer la plus houleuse. Au reste, les bateaux Massoula sont presque toujours accompagnés de catamarans, afin que si quelqu'un d'entre eux vient à chavirer, ce qui arrive quelquefois par une faute de manœuvre qui les jette tout à coup sur la pointe d'un brisant, les autres puissent venir au secours des malheureux passagers, les repêcher et les ramener sains et saufs au rivage. Par bonheur, les requins ne fréquentent guère les approches de la côte exposées à l'agitation de la marée. Ils se tiennent de préférence dans les eaux les plus tranquilles, dans la rade, de sorte que l'on entend rarement parler de quelque catastrophe par suite d'un naufrage de Massoula. Les hommes qui montent les catamarans sont d'ailleurs tellement alertes que les naufragés sont ressaisis immédiatement et déposés en sûreté sur la plage, à leur grande surprise, ainsi qu'au plus grand profit de leur sauveur. Deux mots à présent sur les catamarans. Un catamaran n'est autre chose que trois grosses poutres liées ensemble en forme de radeau, et dont celle du milieu, plus longue que les deux autres, s'élève et fait saillie sur les deux bouts. C'est à l'un de ces bouts que se place l'homme chargé de la manœuvre du gouvernail et de l'écoute de la voile. Assis sur ce siège à peine élevé au-dessus de la surface de l'eau, on le prendrait de loin pour une mouette. Le catamaran a ordinairement 10 pieds de long sur 18 pouces de large. Deux jours après notre arrivée, le capitaine d'Acosta put se convaincre que le pilote, en s'opposant à notre entrée sur la rade, n'avait pas eu tort. La fin de la mousson fut annoncée. C'est-à-dire que l'on hissa sur le fort le pavillon servant de signal pour avertir les navires écartés par la tempête qu'ils pouvaient rallier la rade. En effet, la veille même, on avait aperçu quelques symptômes précurseurs de la fin de la lutte des éléments. Des nuages sous forme de légers flocons avaient apparu à l'horizon par intervalles et s'étaient bientôt dissipés en une vapeur presque imperceptible sur le fond bleu du ciel. Une brume légère s'élevait au loin sur les eaux. Elle sembla s'épaissir par degrés sans pourtant acquérir une condensation suffisante pour réfléchir les rayons du soleil, qui continuaient de répandre sur le vaste océan une masse uniforme de lumière. Une chaleur suffocante remplissait l'atmosphère. Elle pesait sur les poumons et abattait les esprits. Vers l'après-midi, l'aspect du ciel commença à changer. L'horizon se voila de plus en plus, et le soleil, qui s'était levé si brillant, sembla n'avoir fourni jusqu'au bout sa carrière que pour se coucher dans l'obscurité et se dérober aux yeux des hommes durant une longue nuit d'orage et de tempête. Des masses de nuages noirs et sinistres paraissaient s'élever du sein de la mer, accompagnées de brusques rafales qui s'apaisaient soudain pour faire place à un calme morne et profond, comme si l'air eût perdu complètement son élasticité et suspendu ses propriétés vitales. Cependant, les couches inférieures de l'horizon prenaient une teinte rougeâtre, ou plutôt bronzée. C'était l'effet de la réfraction partielle des rayons solaires sur les épais nuages dont l'astre était enveloppé. Vers 4 heures, le ciel se couvrit entièrement, et une sorte de crépuscule obscur se répandit sur la ville et sur l'océan. L'atmosphère condensée semblait former un brouillard épais qu'augmentaient encore les éclaboussures de mer que la violence croissante des vents faisait rejaillir sur la terre. Alors la pluie commença à tomber, comme on ne pourrait s'en former une idée en Europe, en larges nappes d'eau en véritable cataracte. Le vent s'unissait avec d'affreux mugissements au bruit des vagues, C'était un vacarme continu aussi assourdissant que sublime. Du haut de notre bord, mais sans courir de vrais dangers, nous pûmes contempler le terme de la mousson dans toute la grandeur de son spectacle. Le vent, avec une violence irrésistible, pliait jusqu'à terre, avec des craquements plaintifs, les têtes touffues des hauts et sveltes cocotiers. Il faisait voltiger dans l'espace des tourbillons de sable. Bientôt la pluie augmentant encore de violence aplatit la grève en une masse compacte et uniforme. De pâles et larges éclairs sillonnaient les nuages, et comme ils partaient à la fois de tous les points du ciel, on eût dit que les éléments s'étaient convertis en feu et que le monde touchait au moment d'une conflagration générale. Les coups de tonnerre qui suivaient immédiatement ces éclairs ressemblaient à l'explosion d'un magasin à poudre ou à une décharge de grosse artillerie dans une gorge de montagne lorsque les échos multiplient les sons et leur prêtent un degré d'énergie et de retentissement merveilleux. Quoique l'espace fût embrasé et semblât menacer la nature entière d'un vaste incendie, dans quelques parties du ciel que couvrait une couche épaisse de vapeur, les éclairs faibles et intermittents jetaient un éclat débile et semblaient faire de vains efforts pour s'échapper de leur prison. La pluie qui ne cessait de tomber en torrents précipités dérobait aux yeux tous les objets, hormis dans les moments où la foudre leur rendait un éclat aussi vif que passager. Le roulement du tonnerre était tel que nos oreilles en éprouvaient parfois un tintement douloureux. La marée, soulevée par le vent hors de son lit, s'épanchait en lames écumantes sur l'esplanade toute blanchie de cette poudre humide. Elle s'élançait ainsi à plusieurs centaines de mètres du rivage. Pendant le temps que dura cette dernière épreuve, on trouva sur le toit des maisons de la ville une grande quantité de poissons, soit que les rafales les eussent lancés hors de la mer, soit qu'ils eussent été enlevés par des trombes, phénomène fort commun à Madras pendant la saison des orages. Quand ces trombes ont lieu, tous les objets qui se trouvent dans la sphère de leur action sont transportés à de grandes distances sur le continent et déposés dans des situations tout à fait bizarres. Au plus fort de l'ouragan, la chaleur était, en certains moments, insoutenable. Après quoi, le vent tombait par intervalles, et alors pas un souffle d'air ne se faisait sentir. À terre, ainsi que je l'appris plus tard, le punkah seul permettait aux habitants de respirer. Ce n'était là, au reste, que le moindre de leurs maux. Des insectes de mille espèces grimpaient le long des murs, et les reptiles les plus repoussants, et parfois les plus dangereux, se glissaient sur le parquet des maisons. Des légions de fourmis et de lézards, chassés de leur noire retraite par l'envahissement de l'eau, des scorpions, des crapauds, des myriapodes, et jusqu'à des serpents pénétraient librement dans les appartements. L'ouragan se prolongea ainsi tout le jour, parfois avec des intermittences, mais le lendemain, nous pûmes descendre à terre pour y expédier nos affaires. Je suis encore à me demander aujourd'hui comment il put se faire que le caton ne succomba pas à tant de dangers dans cette dernière journée. La conduite du capitaine d'Acosta, quoique justifiée par le bonheur, ne nous parut pas à tous, pour cela, moins blâmable. En quittant Madras, le caton se dirigea vers Calcutta. Je dois avouer que ce ne fut pas sans une certaine émotion que je revis le golfe du Bengale. Que de souvenirs cette vue me rappela. C'était dans ces mêmes parages, il n'y avait pas longtemps de cela, que j'aidais, dans la faible mesure de mes forces, à capturer le Kent. Hélas, la perte de la petite Caroline m'avait enlevé depuis lors la riche part de prise qui m'était revenue de cette admirable aubaine, et je me trouvais en ce moment simple matelot, sans ressources, à bord d'un misérable trois-mâts du commerce. Combien les temps étaient changés pour moi. Mais repoussons tous ces tristes et chers souvenirs. Nous entrons sur les Brasses, la pointe au palmier fuit derrière nous, nous passons devant la pointe du Diamant, et nous voici entrés dans le fleuve. Encore une trentaine de lieues et notre ancre tombe devant la ville. L'opulente métropole de la puissance anglaise dans l'Inde, Calcutta, s'élève sur la rive orientale du fleuve Hooghly et à environ 100 000 Anglais de son embouchure. Elle a à peu près 6 000 de longueur, mais en compensation, sa largeur est partout très peu considérable. Lorsque vous approchez de Chandlapal Chowt et que vienne se développer sous vos yeux une grande et belle forteresse, une vaste esplanade bordée d'une ligne d'hôtels superbes et au-delà, une suite de pompeux édifices. Plus loin, à l'ancrage, une forêt de mâts de navires, les pavillons mêlés de l'Europe et de l'Asie, et enfin une ville immense qui contient plus de 80 000 maisons. Quelle qu'était votre attente, elle est, sinon surpassée, du moins complètement satisfaite. Un objet d'étonnement pour l'Européen qui débarque, c'est la quantité de voitures de toute espèce qui circulent le soir dans les cours à la mode. Les riches coupés construits en Angleterre, les Landau, les Tilbury, lui donnent la plus haute idée du luxe et de l'opulence de la cité. Mais ses impressions s'affaiblissent un peu quand il voit de près ces rochers noirs coiffés d'un turban blanc et couverts de mousseline. Les chevaux du pays, petits et mal attelés. Beaucoup d'Arméniens et de négociants indigènes ont adopté les voitures et quelques-uns des usages des Anglais, tout en conservant leur costume national. De manière que l'on voit souvent des bonnets pointus et des turbans aplatis dans des calèches et des landaus qui semblent sortir de Hyde Park. La portion de Calcutta qu'habitent les naturels se nomme la ville noire et fourmille d'habitants. C'est là que sont situés les bazars. On y rencontre aussi des étrangers venus de tous les points de l'Asie, des Chinois, des Arabes, des Persans, des insulaires de l'archipel oriental, beaucoup de Juifs et de marchands venus de la mer Rouge. C'est une chose fort amusante de parcourir les rues qu'ils fréquentent le plus et, étendu dans son palanquin, d'observer leurs habitudes, leurs manières étranges, de considérer leurs groupes nombreux aux vêtements si pittoresques et si variés. Le palanquin, dont les faibles appointements des 2 mois que je venais de passer à bord du Caton comme matelot ne me permirent de me passer la fantaisie que fort rarement, le palanquin, dis-je, est le mode de transport le plus doux et le plus nonchalant qui soit au monde, et en même temps, presque le seul supportable dans ces contrées embrasées. Rien n'approche, dans nos voitures d'Europe, du charme et du confort d'un voyage en palanquin. En général, on se met en route, après le coucher du soleil, habillé d'un large pantalon et d'une espèce de robe de chambre. Pour dormir, on peut s'étendre à son aise et se coucher comme dans son lit. Si on veut veiller, derrière un petit panneau et fixer une lampe, on n'a qu'à le tirer pour avoir de la lumière et lire. Les vêtements, empaquetés dans des corbeilles, sont portés par des enfants. Le palanquin est rempli de poches et de tiroirs. On peut, sans embarras, avoir avec soi un pupitre pour écrire, quelques volumes et des provisions de bouche pour une 30 000. Pendant le jour, on lit, on médite, on regarde autour de soi les riches paysages de l'Inde. Le matin et le soir, une halte d'une demi-heure, sous l'ombrage d'un arbre, donne le temps de se laver et de se rafraîchir. Les relais des porteurs de palanquins sont établis tous les 10 000 ou 12 000. Ils font communément 4 000 à l'heure. Mais revenons à Calcutta. Lorsque le jour tombe, les voitures réunies sur le cours se dispersent et peu de temps après vous les revoyez en compagnie d'une multitude de palanquins se diriger en grande hâte, à la lumière des torches, vers les brillantes réunions qui se tiennent constamment dans cette ville opulente. À minuit, vous pouvez les apercevoir qui reviennent, et si, comme il arrive que trop souvent, l'accablement et la chaleur vous forcent à aller chercher un peu d'air sur les toits ou le balcon du logis, lorsque tout est rentré dans le silence, vous ne tardez pas à entendre par intervalles les cris sauvages et perçants du chacal, tantôt à distance, tantôt tout près de vous. Du moins, il en était ainsi dans ce temps-là. Vous vous rappelez alors que cette ville est le rapide produit d'un siècle, qu'à l'endroit où vous vous trouvez actuellement, dans un spacieux véranda soutenu par d'élégantes colonnes grecques, les villageois pouvaient à peine, il y a 70 ans, se barricader contre les attaques des tigres. Vous calculez que si la population de Calcutta manquait tout à coup à la ville, il faudrait moins de temps encore pour détruire ces frêles édifices et en faire disparaître jusqu'à la trace sur l'inondante et envahissante végétation de la terre d'Asie. Telle ne sera pas, du moins nous le croyons, la destinée de cette belle cité. Lorsque l'empire des Anglais dans l'Inde aura cessé d'exister, elle gardera sa population, sa richesse, sa puissance. Dans la crainte de compromettre ses possessions en deçà et au-delà du Gange, le gouvernement anglais n'aime pas avoir colonisé l'Hindoustan. Il voudrait étendre les déserts qui le séparent de la Russie. Cependant, une classe d'individus nés dans le Bengale, attachés aux dominateurs du pays par les liens du sang, du langage, des mœurs, du culte, de l'éducation, augmente rapidement en nombre, en possession, en ambition, en importance. Ce sont les métis, sorte d'hommes de couleur des présidences anglaises, dont ils sont les boutiquiers, les petits marchands, en un mot, les bourgeois. Le sang anglais et le sang hindou qui se mêlent dans leurs veines leur sont également odieux, car les anglais et les hindous les désavouent et les dédaignent également. Cependant, leur nombre augmente chaque année dans une progression effrayante. Si leur développement intellectuel est aussi rapide, ces hommes, qui comptent déjà parmi eux des individus remarquables par leur talent et leur lumière, ne consentiront pas longtemps à se considérer comme des êtres décastés et déchus des privilèges ordinaires des hommes libres. L'Amérique du Nord leur a donné un grand exemple, et si jamais ils voulaient le suivre, ils jetteraient la domination anglaise dans de grands dangers. Quant à la population naturelle, proprement dite, que peut-on en observer ? Rien n'amortit davantage l'ardeur de l'Européen qui voyage dans ce pays que de voir qu'il peut en visiter les diverses parties, les villes, les villages les uns après les autres, et cependant ne connaître que l'extérieur de la société indienne. Il faut qu'il renonce à pénétrer dans l'intérieur de la famille, à se joindre au groupe, à voir le cercle domestique, à écouter les conversations libres et franches que les naturels ont entre eux. Il échangera quelques mots avec son mushi ou son kundit, fera quelques milles avec un sirdar musulman, sera reçu en cérémonie par un nabab ou un raja. Mais les barrières que les mœurs et le culte des hindous et des mahométans lui opposent sont telles qu'il lui est impossible de vivre avec eux dans des rapports d'intimité. Tandis que nos pères étaient vêtus de peau de loup, qu'ils habitaient des cavernes, qu'ils subsistaient du produit de leur chasse, l'hindou vivait déjà comme il vit aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ses princes étaient couverts de riches vêtements, portaient des turbans resplendissants de pierreries et logeaient dans des palais. Comme aujourd'hui, les prêtres, orgueilleux et demi-nus, recevaient ses offrandes dans des temples taillés dans le granit, surchargés de sculptures, et l'appelaient à des cérémonies tout aussi absurdes que celles d'à présent, aussi voluptueuses et encore plus magnifiques. Sa maison, ses vêtements, les outils des artisans, des laboureurs, rien n'est changé. À cette époque, il arrosait déjà la terre en pressant de son pied une plante disposée sur une longue perche, ou bien il faisait tirer par ses bœufs, d'un puits profondément creusé, des sacs de cuir remplis d'eau. Il en répandait le contenu dans tous ces petits canaux qui couvrent ses champs et ses jardins. Le maître d'école du village apprenait à ses enfants à tracer des lettres sur le sable, à chiffrer et à écrire sur la feuille sèche du palmier. Sa femme portait le grain au même moulin. On le broyait dans le même mortier. Il pouvait faire ses emplettes dans un bazar, y changer son argent ou emprunter à usure pour payer la dépense d'un mariage, d'une fête ou d'une orgie. Toutes les inventions utiles, tous les raffinements du luxe qui frappent alors les regards du voyageur, étaient déjà de la plus haute antiquité du temps d'Alexandre le Grand. Les constructions, les usages, les mœurs, tout est conservé, et les officiers anglais ont sous les yeux, au bord du Gange, le même spectacle que celui qui frappa, il y a 20 siècles, les soldats macédoniens. Un jour que j'étais à bord du Caton, alors mouillé, je l'ai déjà dit, dans les eaux de l'Ougli, je fus témoin d'un phénomène des plus saisissants et des plus curieux. Je fumais tranquillement mon cigare, quand je crus entendre, quoique pas un nuage ne tachât l'azur du ciel, comme un coup de tonnerre prolongé et lointain. Au même instant, ce fut sur toutes les barques et sur tous les navires ancrés près de nous une confusion et un trouble extrême. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » demandai-je à un matelot qui, couché paresseusement sur le pont près de moi, venait de se lever tout à coup. « Mais c'est le mascaret ! » me répondit-il en pâlissant. « Allons, jette ton cigare et aide-nous à la manœuvre, car il va y avoir du grabuge. »« À quelle manœuvre ? Je ne vois pas trop. Parbleu, à préparer nos amarres. N'entends-tu pas que le bruit augmente au pas de course ? Pourvu que nous ne soyons pas surpris par le travers. » « Surpris par quoi ? » demandai-je avec impatience. « Mais par le mascaret, donc !»« Que le diable t'emporte avec les réponses, je n'y comprends rien. Explique-toi donc. »« Regarde !» me répondit-il en étendant sa main devant lui. Je m'empressai de suivre du regard la direction qui m'était indiquée, et j'aperçus dans le lointain une masse informe qui semblait s'avancer sur le fleuve. À mesure que cette apparition se dessinait plus clairement à mes yeux, je me sentais troublé et inquiet. En effet, jamais je n'avais assisté encore à un semblable phénomène. Cette masse, dessinée en 3 ondulations, était formée par 3 hautes montagnes d'eau, littéralement parlant, qui s'avançaient en se suivant à des distances assez rapprochées les unes des autres. C'est là ce que l'on appelle le mascaret de l'Ougli. Quant à moi, qui jusqu'alors en fait de mascaret n'avais vu que des barres ordinaires, phénomènes réguliers et stationnaires, je ne pouvais revenir de la surprise mêlée d'un peu d'émotion que me causait la vue de cette espèce d'avalanche fluviale. Les Indiens, montés dans les mâtures de leur barque, examinaient l'arrivée du mascaret avec des cris frénétiques et pleins d'enthousiasme. Ce phénomène représentait pour eux une visite à leur divinité et ils saluaient cet honneur avec transport. Lorsque le mascaret nous atteignit, il fit trembler le Caton comme s'il reçut une commotion électrique. mais solidement fixé sur les amarres et bien placé debout à la lame, notre navire résista. Une barque, placée presque contre notre bord, eut moins de bonheur que nous. Elle fut culbutée en un clin d'œil, et les 5 ou 6 hommes qui la montaient se trouvèrent bientôt au milieu du fleuve. À cette vue, les Indiens des barques voisines redoublèrent d'énergie dans leurs cris. On eût dit, en les voyant, des fous furieux en proie à un violent délire. Nous nous empressâmes, à bord du caton, de jeter des cordages aux malheureux qui se noyaient. Cette action, si naturelle de notre part, souleva sur les barques indiennes des hurlements de rage. De toutes parts, les indigènes, exaspérés, nous lançaient les projectiles qui leur tombaient sous la main et nous accablaient de leurs imprécations. Plusieurs des infortunés tombés à l'eau furent repoussés par eux à coups de gaffe au milieu des 2 dernières montagnes écumantes qui ne tardèrent pas à les engloutir. Alors, ce fut partout un hymne joyeux qui retentit jusqu'au ciel. Les Indiens remerciaient la divinité d'avoir bien voulu choisir ces victimes, et pourtant, ces indigènes, que je voyais si féroces, si implacables dans cette circonstance, sont les hommes les plus paisibles et les plus doux du monde entier. Triste effet du fanatisme et de la superstition, qui change ainsi en tigres féroces les natures les plus inoffensives. Quelques jours plus tard, nous mîmes à la voile pour Bourbon, où nous arrivâmes après une curieuse traversée. Je me rappelle encore avec plaisir, comme d'un rêve poétique, quoique bien des années me séparent de ce souvenir, le féerique coup d'œil que me présenta l'île Bourbon lorsque je l'aperçus pour la première fois. C'est là un de ces tableaux au-dessus de toute description que l'on peut à peine ébaucher et qu'il faut absolument avoir vu pour pouvoir s'en faire une idée. Il était à peine 9 heures du matin. Une masse énorme de brouillard rétrécissait pour nous l'horizon. Au-dessus de ces brouillards, qui ressemblaient assez à de fantastiques montagnes, apparaissaient, éclairés par un soleil de feu, les pics dorés des plus hautes montagnes de l'île, les Salas, se détachant en clair sur un ciel d'azur. Des barques courant à toute voile qui s'engouffraient bientôt et disparaissaient comme par enchantement à nos regards dans les humides et sombres vapeurs du matin, complétaient ce tableau indescriptible. À midi, nous jetions l'ancre dans la rade de Saint-Denis.